en action pour le logement abordable et durable. À l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2024, Action Logement donne la parole aux élus locaux.
Bienvenue de nouveau sur notre plateau, ce plateau dédié ici Action Logement Groupe au sein et pendant le Salon des maires et des collectivités locales. Comme chaque année, Action Logement est présent sur le salon au plus près des élus pour accompagner les transitions et les mutations des territoires. Et sur ce plateau, nous accueillons des élus, des filiales du groupe, des partenaires, des parties prenantes pour échanger sur les grands enjeux locaux qui font votre quotidien. L'occasion aussi de vous faire découvrir et mieux connaître notre mission d'utilité sociale en lien avec nos engagements RSE et nos ambitions 2030. Pour cette séquence, je vous propose qu'on parte sur des enjeux à la fois de réhabilitation, de questions, j'allais dire, intergénérationnelles et de problématiques autour des enjeux environnementaux. On va partir dans le Doubs, à Pontarlier précisément, avec vous, monsieur le maire, Patrick Jean. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le maire de Pontarlier. Merci d'être sur notre plateau. Et pour échanger ensemble, on sera avec Xavier Lamasse, le directeur territorial développement et aménagement de Neolia. Bonjour. Et Florent Trublet, directeur régional Action Logement Service Bourgogne-Franche-Comté. Merci d'être là tous les trois. Comme d'habitude, on commence avec vous pour mieux connaître, j'allais dire, votre commune et votre territoire, monsieur le maire. Comment vous présentez Pontarlier aux rares qui ne connaîtraient pas votre commune ?
Ils sont très peu nombreux.
Très peu nombreux, mais quand même, au cas où.
C'est la capitale. C'est pas la capitale de la France, c'est la capitale du Haut-Doubs. Donc on est dans le département du Doubs, mais on est là, on s'appelle la capitale du Haut-Doubs, une ville de 18 500 habitants, une ville, petite ville, je le dis toujours, une ville à la campagne, parce que nous sommes entourés de pâturages, la Montbéliard et autres, hein, les forêts de sapins ou d'épicéas. On a la particularité donc d'être la deuxième ville la plus haute de France, hein, 837 mètres d'altitude, derrière Briançon. J'ai toujours l'habitude de dire qu'on est la plus haute de France de plus de 10 000 habitants, ou de plus de 12 000. Enfin bon. Et nous avons aussi la particularité géographique d'être la dernière ville avant la frontière suisse, donc une spécificité qui d'ailleurs rejaillit sur le logement,
oui,
sur la tension qui pèse sur le logement, sur la tension qui pèse sur l'accession au logement, que ce soit logement locatif ou logement propriété. Donc voilà la particularité, c'est une ville à la campagne, de moyenne montagne, proche de la Suisse, mais qui a su maintenir une très forte activité économique sur son territoire.
C'est la difficulté un peu de ces villes frontalières, en quelque sorte, c'est-à-dire que vous attirez du monde, mais de l'autre côté des frontières, avec un pouvoir d'achat peut-être qui est différent.
Voilà, tout à fait. Alors on attire du monde pour les entreprises locales, je l'ai dit, mais aussi, bien entendu, pour le territoire suisse, pour les entreprises particulièrement horlogères, mais depuis Pontarlier, c'est aussi bien la santé que le bâtiment, que l'horlogerie ou la mécanique de précision. Donc effectivement, il y a une très forte tension, un prix du mètre carré qui explose, une rareté, une raréfaction de l'offre de logement, le logement, tout type de logement, hein, le logement accessible comme le logement d'accession à la propriété. Et donc une vraie difficulté pour les élus que nous sommes de pouvoir accueillir cette population active et lui proposer du logement acceptable et abordable.
Ce qui est, et on s'en aperçoit très souvent, évidemment, un frein, y compris à l'attractivité. C'est-à-dire que c'est aussi dans l'ADN, hein, d'Action Logement de travailler sur ce lien logement-emploi, puisque parfois, des gens peuvent refuser des emplois parce qu'ils n'ont pas le logement. Alors quand on est un élu comme ça, une petite commune avec les moyens qui sont les vôtres, même si autour il y a de l'interco, etc., qu'est-ce que vous avez mis en place ou quels sont les dispositifs que vous essayez de mettre en place pour résoudre ces difficultés, évidemment avec l'aide de partenaires, on en reparlera.
Mais vous... Alors, il y a déjà tout l'aspect réglementaire d'une collectivité. On vient de basculer en plan local d'urbanisme intercommunal avec un volet habitat qu'on a souhaité rajouter à cause de la particularité donc, de la zone frontalière. On travaille donc sur les aspects réglementaires pour essayer de favoriser l'apparition de nouveaux projets. On travaille également, bien entendu, dans la volonté de travailler au mieux sur ne plus s'étendre de manière anarchique. Et donc, on travaille sur la reconstruction de la ville sur elle-même, là, à travers, là aussi, des aspects réglementaires, mais à travers, par exemple, une opération programmée d'amélioration de l'habitat, NOPA, que nous avons mis en œuvre au sein de l'intercommunalité. On travaille sur notre propre patrimoine communal. Je vais présenter dans les prochains jours un schéma directeur immobilier énergétique, justement par rapport à cette volonté de se réapproprier, d'améliorer la qualité des propriétés de la ville, de travailler sur la sobriété énergétique, bien entendu, dans le cadre du développement durable et responsable. Voilà quelques exemples. Et puis, lorsque nous avons des friches, ou en tout cas des espaces disponibles, de travailler, c'est l'objet de, ce, de cette intervention et de ce magnifique projet, de travailler avec les différents acteurs pour favoriser l'éclosion de projets novateurs, et c'est le cas de ce projet de réhabilitation, de rénovation de
l'ancien, hôpital. Et oui, effectivement, c'était un peu le point de départ de notre discussion, puisque c'est un projet qui mélange à la fois des questions, comme vous l'évoquez, hein, de manière de lutter contre cette raréfaction du foncier, et en même temps de réhabilitation, de mélanger du patrimoine, enfin, ce sont des sujets complexes, tout en intégrant très vite, et ça aussi, on va le voir, des éléments, j'allais dire, d'intégration et de rénovation énergétique, puisque c'est quand même là l'essentiel. Pour nous en parler peut-être un peu plus en détail, je me tourne vers vous, Xavier Lamaze, donc le directeur territorial développement et aménagement de Neolia. D'abord, peut-être nous présenter très rapidement votre société et nous dire comment vous êtes intervenu et ce qu'il y avait, j'allais dire, de spécifique sur cette opération de réhabilitation d'hôpital.
Alors, Neolia est la filiale Alsace-Franche-Comté du groupe Action Logement. On réalise en agrément 800 logements par an, 600 logements en livraison sur ce territoire. Alors, l'entrée du sujet sur la ville de Pontarlier et sur cette friche, finalement, c'était une friche sur laquelle étaient passées plusieurs études depuis une quinzaine d'années. Donc, on s'est vu avec monsieur le maire, avec également la foncière de transformation immobilière, hein, du groupe. Et puis, très vite, on a vu que cette friche pouvait être recyclée en logement, en répondant aux besoins, effectivement, de la commune de Pontarlier, le logement jeune. Et compte tenu de la place et de l'emprise qu'on pouvait développer au sein de ce projet, on a eu l'idée également de répondre à une autre cible, la cible senior. Donc, on développe, en fait, une résidence jeunes actifs de 28 logements, des studios du T1 au T2, et puis dans le même ensemble immobilier, une résidence senior sous la forme de notre concept, qui est le concept Villa Génération. Plusieurs enjeux, effectivement, vous l'avez rappelé, la question du recyclage. Le recyclage sur une dent creuse ou une friche comme celui-là est très intéressante, puisqu'en fait, on va faire une économie en termes de bilan carbone de l'ordre de 30% par rapport à du neuf. En même temps, on bénéficie d'un emplacement, comme on dit chez les promoteurs immobiliers prime, on est au centre-ville et donc à proximité de nombreux services, et pour les jeunes actifs, eh ben, aux portes, effectivement, pour certains d'entre eux, hein, j'espère, de l'hôpital, et puis également d'entreprises qui sont également très proches, il y a le site de Nestlé.
Il y a à la fois un emplacement assez incroyable, et puis peut-être, parce que ça me fait penser à ça en vous écoutant, ce qui est intéressant, c'est que c'était quelque chose qui avait été délaissé pendant très très longtemps, donc il y a aussi peut-être... comme un renouveau, comme un changement, c'est à la fois exemplaire et symbolique quand on s'attaque à des endroits comme ça.
Alors, je préside le conseil d'administration maintenant de surveillance d'hôpital depuis de nombreuses années. Il n'a pas été délaissé, il était quand même utilisé, mais de manière très épisodique et pas rationnellement, parce qu'il faut savoir que l'hôpital a migré vers, entre guillemets, de cet hôpital historique vers l'hôpital moderne, si je puis dire, qui a été construit par extension. Et donc, c'est vrai que l'hôpital, depuis presque 20 ans même, réfléchit à utiliser ces mètres carrés pour faire une opération gagnant-gagnant, puisque c'était une charge pour l'hôpital, des mètres carrés inutilisés, des mètres carrés qui coûtaient en fonctionnement, en sécurité, en chauffage, en électricité parfois, et qui ne correspondaient plus du tout aux besoins. Donc voilà, c'est vraiment une opération gagnant-gagnant pour l'ensemble des acteurs, bien sûr l'opérateur, bien sûr l'hôpital, bien sûr la collectivité.
Qu'est-ce qui était le plus difficile, du coup, quand on s'attaque comme ça à un patrimoine un peu historique que les gens ont l'habitude de voir et où on doit d'emblée, parce que c'est ça aussi, intégrer cette dimension environnementale?
Alors, la première difficulté, on part d'une page qui n'est pas blanche, avec finalement des locaux à curer, à démolir. Donc la première phase, c'est le diagnostic. Comme je l'ai dit tout à l'heure, assez vite, les trames du bâtiment nous ont permis d'imaginer, en fait, la trame logement. Donc la technique, j'ai envie de dire, elle suit. Après, on a trouvé avec nos partenaires, bien évidemment, les intercommunalités, la ville, l'État, l'ensemble des financeurs et bien évidemment Action Logement, une capacité à rendre cette technique possible par le fait financier. Donc il y a eu un alignement de planètes assez exceptionnel sur ce projet, parce que voilà, ça avance vite.
Alors, ce qui a permis aussi peut-être d'avancer vite, c'est d'une part, comme souvent, la vision claire de l'élu, de ce qu'il a envie d'en faire, la possibilité d'avoir des compétences, mais aussi d'avoir un cadre, notamment souvent à Action Cœur de Ville, et puis d'avoir Action Logement qui, justement, dans ses axes stratégiques de réflexion, a mis la RSE au centre. C'est-à-dire que je suppose aussi que c'était ce qu'il y avait d'important dans cette opération pour vous, en tant que directeur régional d'Action Logement.
Oui, tout à fait. Alors, pour le coup, la ville de Pontarlier n'est pas une ville Action Cœur de Ville, donc pour le coup, nous ne pouvions pas intervenir dans ce cadre. Pour autant, le projet, il a une forme d'innovation, dans le sens où il a une innovation technique, parce qu'on vient recycler, reconstruire la ville sur la ville dans un patrimoine remarquable, tout en y associant derrière un projet social qui va être des jeunes, des actifs, et puis des seniors pour faire face à...
C'était pas dans le projet, mais c'était dans l'esprit, quelque part, de Cœur de Ville aussi, un peu ce projet. Voilà, c'était je voulais dire.
Non, mais tout à fait. Mais finalement, les deux sont liés. Et l'idée là, c'est de se dire qu'on a 40 entreprises versantes de l'APEC sur le territoire. On a sur ce territoire un taux de vacances, comme l'a exprimé Monsieur le maire, qui est extrêmement bas, puisqu'on est en dessous des 1%, avec en face 1000 demandes locatives sociales, alors que nous avons à peine 100, je crois que c'est 85, entrées dans les lieux sur les 12 derniers mois. Donc vous voyez, globalement, ça fait 10 ans d'attente. Et pour le coup, ça pénalise le développement des entreprises du territoire, parce qu'elles sont dynamiques. On est sur un taux de chômage, Pontarlier, je crois que c'était dans la presse il n'y a pas très longtemps, au mois de septembre, fait partie des communes où le taux de chômage est le plus bas. Bassin d'emploi où le taux de chômage est le plus bas en France, puisqu'on est à 4,8 pour un taux de chômage qui est au-delà de 7. Donc on pourrait dire que c'est une belle opportunité pour ceux qui y vivent, mais pour les entreprises qui souhaitent se développer, ça veut dire qu'elles n'ont d'autre choix que de faire venir des salariés, des jeunes actifs d'autres territoires. Et pour ça, il faut que ces jeunes puissent se loger et trouver rapidement où se poser. Donc en l'occurrence, alors moi je vais être moins sur le sujet des seniors, mais les 28 logements, il me semble, jeunes actifs, sont à ce titre très intéressants pour ça. Et c'est pour ça qu'on a souhaité, au titre de cette double innovation, réhabilitation plus projet social, accompagner ce projet à hauteur de 500 000 euros pour apporter notre coup de pouce et une réponse pour les entreprises.
Il est effectivement à la fois important, même si parfois vous avez de plus grosses opérations, mais il est quand même assez exemplaire et assez symbolique de la tendance qui est celle aujourd'hui de construire à la fois durable mais aussi de qualité, en remettant de la nature en ville, en protégeant la biodiversité. Enfin, c'est cette espèce de complexité qui aussi est intéressante à raconter.
Pour le coup, c'est un tout, et c'est ce qui a justifié cette intervention significative de ce fonds innovation sous forme de subvention, parce que justement, comme vous l'avez dit, il y a aussi ce côté biodiversité avec de la renaturation du site qui aujourd'hui est plutôt minéral.
Donc, monsieur le maire, je suppose que vous en êtes plutôt content de cette opération. Elle en est où, etc., aujourd'hui? Quand est-ce qu'on va en voir la plénitude des résultats?
Elle avance bien. On était encore en comité de pilotage lundi matin, donc avec monsieur sous-préfet qui a été aussi à la manette, si je puis dire, avec l'État, avec le département, avec Action Logement, avec bien sûr Neolia, la ville, l'Interco. On est dans la phase administrative, la phase de conception avec les architectes, avec encore un ou deux audits à réaliser, diagnostics à réaliser, mais globalement, on peut s'attendre à un premier coup de pioche mi-2025 et une livraison, on va dire 2027, je pense, premier semestre 2027, des premiers logements, sachant que ça va permettre donc d'accroître l'offre pour celles et ceux qui s'installent. Il n'y a pas que des jeunes, d'ailleurs. Et puis aussi de répondre à un besoin important pour le parcours de vie, le parcours habitat des personnes qui arrivent dans le grand âge, et de permettre... On a déjà créé un résidence senior il y a 3-4 ans sur Pontarlier. Ça fera une deuxième résidence senior. Donc là, ça va être aussi une amélioration sur l'approche logement des seniors dans le grand âge. Donc c'est vraiment une opération gagnant-gagnant. Et ça va aussi permettre, parce que vous savez que dans le domaine de la santé, il y a une très forte tension dans le recrutement. Et l'hôpital, bien sûr, va réserver, entre guillemets, des chambres, des appartements, des petits T1, T2, pour les mettre à disposition de ses propres personnels. ce qui devrait permettre d'améliorer l'attractivité.
De lutter contre ces fameux déserts médicaux. Tout à fait. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant-gagnant.
Tout à fait.
Eh bien écoutez, merci beaucoup et on finira sur cette note positive. Merci monsieur le maire d'être venu nous présenter ce beau projet. Merci à vous deux d'avoir contribué à cet échange. Je vous rappelle que ce podcast sera disponible sur Radio Territoria et Radio Imo, ainsi que sur le LinkedIn d'Action Logement. Bonne journée, merci à tous les trois. Au revoir.
En action pour le logement abordable et durable, à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2024, Action Logement donne la parole aux élus locaux.